Merci. Donc jeudi 22 septembre 2022, première séance de la saison 2022-2023 consacrée à la question du châtiment. Alors, commençons d'emblée par la définition du terme. Qu'est-ce que c'est qu'un châtiment ? C'est une souffrance infligée à un homme en raison de son action ou de sa conduite jugée délinquante ou criminelle. On dit ainsi, tout crime mérite châtiment. Alors, c'est une souffrance donc infligée à un criminel de la même façon que le crime. Le crime du criminel, lui aussi, est une souffrance mais qui a été infligé à la victime. Alors, si on s'en tenait seulement à l'observation, on pourrait dire qu'on a affaire à deux souffrances qui s'ajoutent l'une à l'autre, se succèdent chronologiquement, mais évidemment, pour dire qu'il s'agit d'un crime ou qu'il s'agit d'un châtiment, on ne se contente pas de les observer seulement, simplement, comme de souffrances qui se succèdent. On leur donne un sens. On donne à ces souffrances un sens. La première a le sens d'un crime, la deuxième a le sens d'un châtiment. Alors, si le crime n'était qu'un mal physique, comme une blessure infligée par une bête sauvage, nous ne parlerions pas de crime. Et le châtiment, évidemment, n'aurait pas lieu d'être. Et c'est bien parce que le crime est une offense, un outrage, ou de manière plus générale, une injustice, que le châtiment qui lui répond, apparaît mérité. Donc le châtiment apparaît ainsi comme la sanction d'un crime. Et en tant que sanction, il résulte d'un jugement. Il est l'expression de la justice. Et vous voyez que cette petite analyse nous permet de comprendre quelles sont les questions qui vont se poser. Trois questions vont se poser. La première, elle est très simple. Qui a autorité pour juger d'une action et la qualifier de crime ? Et qui décide, bien sûr, de son châtiment. Deuxième question, de quelle manière en juge-t-on? Et puis troisième et dernière question, qui est certainement de loin la plus importante, comment enfin justifier qu'on fasse souffrir un homme parce qu'il a fait souffrir un autre homme? Comment justifier? Comment justifier qu'on lui inflige une souffrance au nom de la justice? Telles sont les questions donc, que nous aborderons. J'essaierai ce soir de ne pas aller trop rapidement. Peut-être qu'au début, le propos paraîtra dense, mais je ferai en sorte que ce ne soit pas le cas et je m'appuierai beaucoup aussi sur des données historiques. Donc avant d'aborder ces questions, effectivement, il me paraît nécessaire d'interroger davantage la notion de châtiment et surtout d'en présenter un historique. Vous avez remarqué que aujourd'hui nous employons assez rarement le terme de châtiment. Nous utilisons bien plus souvent celui de peine, où nous parlons plus globalement de punition. Et dans le domaine juridique, on n'emploie pas le terme de châtiment, me semble-t-il. On parle du droit pénal. Alors il faut se demander pourquoi. Si le terme de châtiment est tombé en désuétude, n'est-ce pas parce que les punitions qui sont appliquées aux délinquants et aux criminels dans nos sociétés modernes ne sont plus à proprement parler des châtiments? Et pour y voir plus clair, je crois qu'il est nécessaire de distinguer deux usages du terme de châtiment. Alors vous avez un premier usage très élastique, par lequel, au fond, il est confondu avec les termes de peine, de punition, même si bien sûr il est rarement employé. Et d'ailleurs, il m'arrivera, quand je parlerai de châtiment, de parler tout aussi bien de la peine, hein, d'une peine. Bon, vous voyez, il y a un usage flottant, hein, du terme dans le langage courant. Mais si on considère le terme dans son sens précis, bien le châtiment, comme je l'ai dit au départ, désigne avant tout une punition qui produit une souffrance. Et le plus souvent, les châtiments sont corporels. Alors, il y a des châtiments psychologiques, hein, mais évidemment, le plus souvent, les châtiments sont corporels. On ne dira pas d'une amende qu'elle est un châtiment, sauf pour en parler de manière ironique. Vous voyez, c'est mon châtiment, ouais, vous voyez, mais je ne prends pas ça au pied de la lettre. Hein. On ne parle pas non plus de châtiment d'intérêt général, on parle de peine d'intérêt général pour désigner les travaux qu'on est obligé d'accomplir quand on a été puni pour un délit. Au sens restreint du terme, une fessée qu'on inflige à un enfant est un châtiment. On prétend par là le corriger, on croit pouvoir le dissuader de recommencer ses bêtises, mais comme le remarque Jean-Jacques Rousseau dans ses Confessions, la fessée n'a pas toujours l'effet escompté. Hein, vous connaissez le récit des fessées que Rousseau reçoit de Mademoiselle Lambercier. Hein, il raconte combien les fessées administrées par Mademoiselle Lambercier, lorsqu'il était enfant, étaient loin de lui procurer de la souffrance. Alors, si vous voulez aussi entrer dans l'univers de la fessée, vous lisez La Comtesse de Ségur. Alors là, il y en a des fessées. Mais dans cet univers-là, on devient très vite hypocrite. Hein, la petite Sophie passe son temps à jouer l'enfant sage. Enfin, alors qu'elle fait beaucoup de bêtises, mais elle joue à être une enfant sage. Alors, concernant toujours le châtiment dans le sens restreint du terme, c'est l'idée de châtiment qui est évoquée pour décrire les souffrances infligées aux hommes qui ont gravement péché durant leur vie et qui, une fois morts, vont en enfer. Ils sont alors condamnés à brûler vifs éternellement sur un bûcher. Voilà des exemples de châtiment. Alors, que s'est-il passé au cours de l'histoire pour que le châtiment s'efface au profit d'une peine dont l'objectif premier n'est plus de faire souffrir les coupables? Qu'est-ce qui s'est passé pour que non, on en arrive là? Alors, effectivement, nous sommes devenus étrangers au motif pour lequel on pratiquait surtout des châtiments corporels, autrefois, dans les siècles antérieurs. Et si, pendant longtemps, on peut dire jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, si pendant longtemps on a considéré les châtiments corporels comme le mode de punition privilégié, eh bien c'est parce que le corps des condamnés était censé symboliser, en tout ou partie, le délit ou le crime qu'ils avaient commis. On coupait par exemple la main au voleur, on coupait la langue au blasphémateur, on marquait aussi le corps d'un voleur au fer rouge, en y mettant la lettre V. Il s'agissait donc de cette façon d'inscrire l'infamie du crime dans la chair du condamné, et ça, de manière irréversible. Alors, les crimes les plus graves étaient sanctionnés par des supplices qui visaient le corps entier du condamné avant sa mise à mort. Évidemment, nous avons oublié tout cela. Tout cela nous paraît très étrange et très lointain. Et pourtant, pendant des siècles, c'est ainsi qu'on a puni. Et si nous voulons nous rendre compte de ce qu'était un supplice, ben je vous invite à lire la description que fait Voltaire du supplice de la roue infligé à Jean Calas, hein, sur la place publique à Toulouse, en 1761, je crois, dans son traité sur la tolérance. Et vous trouvez aussi, au début du livre du philosophe Michel Foucault, alors la date... Les dates de Michel Foucault, il est né en 1926, il est mort en 1984. Eh bien, vous trouvez dans son livre, le livre qu'il a consacré à sa réflexion sur la peine, qui s'appelle « Surveiller et punir », où il montre comment est née la prison. Eh bien, au début de ce livre, vous trouvez le récit du supplice administré au régicide Francis Damien, attendez, le prénom, c'est Robert Francis Damien. Et ce supplice a été administré le 28 mars 1757. Retenez la date. 1757. Et alors, en fait, ce récit, ce n'est pas celui de Michel Foucault. Il donne le récit qui en a été fait à l'époque par la Gazette d'Amsterdam, par un journal qui s'appelait la Gazette d'Amsterdam. Et je vous ai photocopié le texte entier. On lira quelques lignes. Alors, Robert Francis Damien est le dernier condamné à avoir subi en France le supplice du régicide, après avoir tenté d'assassiner Louis XV. C'est le dernier. Et justement, le texte de la Gazette d'Amsterdam raconte par le menu comment Damien a été placé sur la roue, comment on a brisé ses membres à coups de barre de fer avant qu'ils ne soient écartelés sous l'action de 6 chevaux. Au début, on en avait mis 4, c'était pas assez. Il a fallu en faire venir 2 autres. Et puis ensuite, quand ces organes ont été démembrés, c'était pas facile à faire. Eh bien, on les a jetés sur le bûcher. Alors, vous allez me dire, oui, c'est tout de même de la barbarie, de la cruauté, c'est un déchaînement de violence. Mais non, c'est une erreur de croire que c'est ainsi que se caractérise ce supplice. Ce n'est pas un déchaînement aveugle de violence. Il s'agit tout au contraire d'une pratique réfléchie et réglée par un pouvoir politique qui calcule précisément l'exercice de la violence qu'il administre. Alors, puisque je vous ai photocopié le récit de ce supplice, eh bien, je vais juste en lire le début. Vous voyez que le texte commence d'abord par l'énoncé de la sentence prononcée contre Damien. Et puis ensuite, bon, vous avez une petite description, j'arrêterai assez vite, du supplice. Alors, je vous le lis. Prenons les premières lignes. Et c'est dans le chapitre premier du livre de Foucault qui s'appelle « Le corps des condamnés », où il parle des supplices. Damien avait été condamné le 2 mars 1757 à faire amende honorable devant la principale porte de l'église de Paris, où il devait être, je cite, « mené et conduit dans un tombereau nu » en chemise, tenant une torche de cire ardente du poids de 2 livres. Puis, dans le dit tombereau, à la place de Grève, et sur un échafaud qui y sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, sa main droite tenant en nicelle, c'est-à-dire en celle-ci, le couteau dont il a commis le dit parricide, brûlé de feu, de soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeter du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et soufre fondu, et ensuite son corps tiré et démembré à 4 chevaux, et ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendres, et ses cendres jetées au vent. Vous voyez, c'est précis, c'est minutieux, c'est du travail d'orfèvre. Enfin, On l'écarte là, raconte la Gazette d'Amsterdam. Cette dernière opération fut très longue parce que les chevaux dont on se servait n'étaient pas accoutumés à tirer, en sorte qu'au lieu de 4, il en fallut mettre 6. Et cela ne suffisant pas encore, on fut obligé, pour démembrer les cuisses du malheureux, de lui couper les nerfs et lui hacher les jointures. Il y avait quelques résistances. Bon. Enfin, je ne vais pas tout vous lire, hein. Vous imaginez, enfin, vous voyez bien la suite. Alors, donc, je vous disais, l'erreur, ce serait de croire que c'est une sorte de violence anarchique qui ne suit aucune règle. Non, comme le montre le récit, le supplice est une pratique codée, dont les règles mettent en corrélation la gravité du crime et la souffrance qui doit être subie par le criminel. Et dans le cas du régicide, la souffrance doit être maximale. Et c'est ce qu'on obtient, surtout grâce à l'écartèlement. On a affaire donc à un rituel dont la fonction est de manifester la force et la gloire du pouvoir qui punit. Et ce rituel, c'est la mise en spectacle de la souffrance extrême infligée au condamné, à cet homme qui a eu l'impudence de se mesurer au souverain. Et le châtiment permet alors de restaurer dans tout son éclat la souveraineté du roi qui a été momentanément mise à mal par le crime. Alors, voyez, c'est ça le supplice, c'est pas n'importe quoi. Hein, c'est au fond une démonstration de force de la part du souverain exercée sur le corps du supplicié. Alors, comme je l'ai dit, ce supplice a lieu en 1757, le 28 mars 1757. Or, un siècle et demi après, eh bien, la punition va se trouver profondément transformée. Les supplices vont disparaître et on va voir naître alors un tout nouveau mode de punition, qui sera la prison. Et c'est nouveau. Et la prison, ce n'est pas le cachot. Hein. Le cachot, bon, on vous jette aux oubliettes, et puis hein, c'est le décret du roi, et puis ça dépend entièrement de son arbitraire. Bon. La prison, c'est quelque chose aussi de très réglé, de minutieusement géré. Alors, je cite encore Foucault, Michel Foucault. Là, je ne vous ai pas photocopié le texte. Hein. C'est toujours dans le premier chapitre, page 20-21. S'efface donc, au début du XXe siècle, le grand spectacle de la punition physique. On esquive le corps supplicié. On exclut du châtiment la mise en scène de la souffrance. On entre dans l'âge de la sobriété punitive. On était dans l'abondance, on peut le dire. Cette disparition des supplices, on peut la considérer à peu près comme acquise vers les années 1830-1848. Voilà ce que dit Foucault. Vous avez un changement. Et à partir de la fin du XVIIIe siècle, en effet, c'est-à-dire assez peu de temps après le supplice de Damiens, eh bien on assiste à un double processus. D'une part, un processus d'adoucissement des peines, et puis d'autre part, un processus d'effacement de leur spectacle. Alors, concernant le premier processus, la parution en 1764 du livre du philosophe italien, du philosophe milanais, parce que l'Italie n'existe pas politiquement. Donc, le livre de ce philosophe milanais, qui s'appelait Cesare Beccaria, le traité des délits et des peines, eh bien, ce livre va marquer une étape extrêmement importante. L'ouvrage de Beccaria est salué dans toute l'Europe, il est commenté, il suscite des discussions passionnées. Voltaire hein, en fait un commentaire élogieux, et l'ouvrage de Beccaria va inspirer des projets de réforme du droit pénal. Alors, Beccaria, surtout, fait émerger l'idée, une idée nouvelle, qui va de plus en plus s'imposer, à savoir que ce n'est pas la sévérité des peines, pour ne pas dire leur cruauté, qui permet d'éradiquer la criminalité et de dissuader les candidats au crime. Tout au contraire, cette sévérité entretient des passions morbides et diffuse le goût de la cruauté. Alors, ce qui permet vraiment de combattre la criminalité, ce qui permet, au fond, de dissuader les candidats au crime, c'est tout au contraire la certitude d'être puni. Ils savent qu'il n'y a pas d'impunité. C'est ça qui est le plus important. La certitude d'être puni d'une peine qui sera en proportion précise avec la gravité du crime commis. Il n'y a pas besoin pour autant, et c'est une idée qui est déjà chez Montesquieu, hein, il n'y a pas pour autant besoin, effectivement, de se livrer à une sorte de surenchère pénale, hein, pour être dissuasif. Et ce processus d'adoucissement des peines s'accompagne d'un processus d'effacement de leur spectacle, comme je l'ai dit, et là je vous invite à prendre le texte qui se trouve page 3, dont je vais lire le début. Toujours dans le premier chapitre du livre de Michel Foucault, « Surveiller et punir », lui débute ce texte. Ça commence par la phrase que j'ai soulignée là. « La punition a cessé peu à peu d'être une scène ». Et tout ce qu'elle pouvait emporter de spectacle se trouvera désormais affecté d'un indice négatif, comme si les fonctions de la cérémonie pénale cessaient progressivement d'être comprises. On soupçonne ce rite qui concluait le crime d'entretenir avec lui de louches parentés, de l'égaler, sinon de le dépasser en sauvagerie, d'accoutumer les spectateurs à une férocité dont on voulait les détourner, de leur montrer la fréquence des crimes, de faire ressembler le bourreau à un criminel, les juges à des meurtriers, d'inverser au dernier moment les rôles, de faire du supplicié un objet de pitié ou d'admiration. Beccaria, très tôt, l'avait dit, l'assassinat que l'on nous représente comme un crime horrible, nous le voyons commettre froidement, sans remords. L'exécution publique est perçue maintenant comme un foyer où la violence se rallume. La punition tendra donc à devenir la part la plus cachée du processus pénal. Et de fait, on va assister à une sorte d'invisibilisation progressive, vous voyez, des peines, surtout des peines les plus graves, comme la peine de mort, hein, puisque progressivement, on soustrait au public le spectacle de cette peine de mort, hein, parce que ça déchaîne des passions. On finit par trouver que c'est dangereux, que ça peut effectivement nuire à l'ordre public. Ainsi, donc, désormais, tout se passe comme si donc, la justice, on entend par là le pouvoir judiciaire, n'assumait plus la dimension de la violence physique qui accompagne la répression du crime. Alors, elle accepte de prononcer la sentence qui, éventuellement, condamne le criminel à la peine de mort. Ça, elle accepte. Mais en même temps, elle cherche à la dissimuler en la confiant à une autorité séparée qui va être l'autorité pénitentiaire. Vous voyez, il y a une séparation qui est en train de s'accomplir. Hein. Le judiciaire, finalement, confie au pénitentiaire la charge de l'exécution des peines et à l'abri des regards. Donc, effectivement, bientôt, il est interdit au public d'assister aux exécutions capitales. Et non seulement la justice dissimule la violence du châtiment, elle cherche aussi à la diminuer en réduisant le temps de la souffrance grâce à la guillotine. Hein, la guillotine qui est mise en qui est mise en œuvre, enfin, qui est inventée en 1792, hein, je crois. Donc, vous voyez, on diminue le temps de la souffrance, on essaie de faire le moins longtemps souffrir. Alors, non seulement elle dissimule la violence, elle diminue cette violence, mais elle dénie la violence. Elle dénie la violence de la répression en se donnant de plus en plus un nouvel objectif. C'est-à-dire que l'objectif n'est plus de corriger le criminel quand il n'est pas condamné à mort, hein. Excusez-moi, je reprends mon propos. L'objectif n'est plus de réprimer coûte que coûte le criminel, hein, de lui faire payer son crime par une souffrance épouvantable, mais l'objectif devient celui de le corriger, hein, de l'amender, de le régénérer en quelque sorte, hein, pour qu'il se réhabilite. Et vous voyez que à partir de là, eh bien, on commence à faire perdre à la punition son caractère de châtiment. Ce qui, surtout, bien sûr, met fin au châtiment, comme le montre Michel Foucault, c'est la naissance de la prison. D'ailleurs, le sous-titre de son ouvrage, il est là, hein, sous les yeux, c'est « Surveiller et punir, naissance de la prison ». Alors, effectivement, la prison permet de faire passer à l'arrière-plan la dimension de souffrance qui accompagne les peines. Elle invisibilise la souffrance. Vous voyez ? Et à partir de la moitié du XIXe siècle, hein, eh bien, la prison, à ce moment-là, devient la peine par excellence. Et l'objectif n'est plus, comme je l'ai dit, la souffrance des corps, mais essentiellement la privation de liberté. Et la liberté, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté, effectivement, c'est un droit naturel, imprescriptible de l'homme. Effectivement, c'est le bien le plus précieux de l'homme. D'une certaine façon, la prison, effectivement, tout de même, s'attaque à un bien, à un des biens les plus précieux de l'homme après sa vie, la liberté. Mais la prison a un avantage. Elle facilite le calcul de la peine. Elle rend possible une gestion pénale. D'abord, elle a un lieu modulable en intensité, parce qu'on y connaît un régime plus ou moins sévère, hein, un régime plus ou moins sévère d'enfermement. Et le régime le plus sévère, c'est le quartier d'isolement, le QHS. L'incarcération se définit d'autre part par rapport à une durée qui est plus ou moins longue, selon la gravité de la peine. Et vous savez bien aussi qu'il y a des réductions de peine pour bonne conduite. Alors, sur ce point, vous voyez, la prison offre à la politique pénale le même avantage que la monnaie pour les échanges économiques. Elle offre la possibilité d'une mesure objective parce qu'elle est quantitative, parce qu'elle est à la fois multipliable et divisible. On a 50 prisons. Hein, on est condamné à 50 prisons, 20 ans, 25 ans, ou à perpète. Et perpète incompressible, dans le pire des cas. Et eh bien, vous voyez, ce rapide historique nous permet donc de comprendre pourquoi le châtiment, qui implique la souffrance, pourquoi le châtiment s'est effacé. Mais, tout de même, il faut le dire, si la prison fait passer à l'arrière-plan la dimension répressive de la peine, cela ne veut pas pour autant dire que la souffrance a disparu. Hein, c'est pas parce qu'on ne la voit plus, c'est pas parce qu'elle est à l'ombre dans les prisons qu'elle n'existe pas. Et l'explication de Michel Foucault sur ce point est très claire. Reprenez votre texte, page 3, je vais lire plus loin. Je prends le deuxième paragraphe, mais je vais sauter un passage. Le deuxième paragraphe commence par la phrase suivante. La punition tendra donc à devenir la part la plus cachée du processus pénal. Bon, vous laissez la phrase qui vient ensuite. Je reprends là où il y a une phrase soulignée. La certitude d'être puni, c'est cela, et non plus l'abominable théâtre qui doit détourner du crime. La mécanique exemplaire de la punition change ses rouages. Et je lis surtout la suite. De ce fait, la justice ne prend plus en charge publiquement la part de violence qui est liée à son exercice. Qu'elle tue, elle aussi, ou qu'elle frappe, ce n'est plus la glorification de la force. Ce n'est plus la glorification de sa force. C'est un élément d'elle-même qu'elle est bien obligée de tolérer, mais dont il lui est difficile de faire état. Les notations de l'infamie se redistribuent. Dans le châtiment spectacle, une horreur confuse jaillissait de l'échafaud. Elle enveloppait à la fois le bourreau et le condamné. Et si elle était toujours prête à inverser en pitié ou en gloire la honte qui était infligée aux suppliciés, elle retournait régulièrement en infamie la violence légale de l'exécuteur. Désormais, le scandale et la lumière vont se partager autrement. C'est la condamnation elle-même qui est censée marquer le délinquant du signe négatif et univoque. Publicité donc des débats et de la sentence. Quant à l'exécution, elle est comme une honte supplémentaire que la justice a honte d'imposer aux condamnés. Elle s'en tient donc à distance, tendant toujours à la confier à d'autres et sous le sceau du secret. Il est laid d'être punissable, mais peu glorieux de punir. Cette phrase résume tout. Alors, vous voyez, finalement, ce passage, tout est dit, hein, de ce qui est en train de s'accomplir. Avec la prison, donc, la souffrance n'est plus officiellement l'objectif numéro un. On prétend désormais que la punition a un autre sens, celui de régénérer le coupable, ce qui va permettre, au fond, ce qui va lui permettre de se réhabiliter, de se réinsérer dans la société. Mais, vous voyez, c'est une question pénitentiaire, ça. C'est pas une question qui regarde directement la justice, hein, en quelque sorte. Mais il reste que l'enfermement, qu'on le veuille ou non, est en lui-même une souffrance, avec toutes les privations qu'il implique. Donc voilà ce qui se passe au cours des 18e siècle et 19e siècle. Et après cet historique, maintenant, nous pouvons reprendre les questions que nous avions posées au début. La première question. Si le châtiment est une sanction qui résulte d'un jugement, qui a autorité pour juger et appliquer ou faire appliquer le châtiment? Qui? Alors ici, on peut noter que la justice n'est pas toujours et seulement considérée comme une affaire humaine. Pour les trois grandes religions du livre, Dieu est le juge suprême, parle d'une justice divine. Et évidemment, ici, j'évoque très rapidement ces questions, hein, bien sûr. Lors du jugement dernier, eh bien, Dieu se prononce sur le sort des âmes. Il leur accorde ou il leur refuse le salut. Et pour se faire une idée de la condition pécheresse de l'homme, eh bien, souvent, on cite le récit de la Genèse, où Dieu châtie Adam, le premier homme, parce qu'il a désobéi à son commandement. Et ainsi, il est devenu pécheur. C'est ainsi, évidemment, qu'on se représente la condition humaine. Alors, comme on le sait, le christianisme distingue deux royaumes. Le royaume de Dieu, le royaume spirituel, puis le royaume de César, le royaume temporel. Mais si ces deux royaumes sont distingués, il y a tout de même une hiérarchie Bien sûr. Et il y a même une subordination du royaume temporel au royaume spirituel. Et c'est ainsi que, selon saint Augustin, l'un des pères de l'Église, et plus tard Thomas d'Aquin, et bien d'autres encore, si les tribunaux d'État ont pour fonction de punir seulement les violations des lois civiles, ils sont tout de même chargés aussi par l'Église de punir ceux qui ont commis des crimes contre la religion. J'entends par là les hérétiques, les blasphémateurs. Vous voyez ? L'État est le bras séculier de l'Église. Alors, vous voyez que ici, il y a une subordination du juge humain au juge divin, si vous voulez, hein, étant entendu que l'Église est dépositaire de la vérité révélée, transmise par Dieu. Alors, il faut attendre les 17e, 18e siècles pour que soit envisagée une justice humaine qui ne se réfère plus à l'autorité divine dans son exercice. C'est-à-dire, au fond, pour le dire d'une autre façon, il faut attendre le 17e et 18e siècle pour que la question de la justice soit laïcisée. Et ce pas est accompli par les philosophes du contrat social, comme Thomas Hobbes. Comme Thomas Hobbes, qui écrit au XVIIe siècle, en 1651, un grand ouvrage qui s'appelle « Le Léviathan ». Alors, son raisonnement est très simple, vous allez pouvoir facilement comprendre. Il se donne comme point de départ de son raisonnement, l'hypothèse d'une condition humaine où n'existe aucune justice, aucune obligation, et en conséquence, la notion de châtiment, dans ce cadre-là, n'a strictement aucun sens. Cette hypothèse, c'est celle d'un état de nature. Et la question de Hobbes est très simple. Que serait, se demande-t-il, la condition des hommes s'ils étaient livrés à eux-mêmes ? Si leurs relations et leurs rencontres n'étaient soumises à aucune loi, à aucune autorité ? Eh bien, la réponse est très simple. Dans cet état de nature, les hommes pourraient en théorie faire tout ce qui leur plaît, dans les limites de leurs forces. Ils pourraient en théorie satisfaire tous les désirs qui sont les leurs, tuer les hommes qui leur font obstacle, mais en théorie seulement. Parce qu'en pratique, ils seraient à leur tour confrontés à l'arbitraire des autres et menacés par les autres. Et tous dans cette situation, tous dans cette condition, eh bien, courraient par conséquent le risque d'être tués. Voilà pourquoi, selon la formule de Thomas Hobbes, l'état de nature est un état de guerre de chacun contre chacun. État de guerre de chacun contre chacun, c'est-à-dire au fond un état infernal, dont tous les hommes, sans exception, y compris ceux qui sont les plus forts, ont intérêt de sortir. D'où la nécessité de ce que Hobbes et les autres philosophes à sa suite appellent un pacte social, nécessité d'un pacte social, d'un pacte d'association entre les hommes, qui leur permette de fonder l'institution de l'État comme organisation politique, l'État disposant alors d'un pouvoir souverain, l'État étant dès lors capable d'instaurer la paix civile en édictant des lois. C'est-à-dire, au fond, il ne peut y avoir de justice que s'il y a un État qui est institué. Sinon, il n'y a pas de justice et on ne peut même pas dire qu'une action est juste ou injuste. Alors, vous avez le texte un petit court texte de Hobbes, qui se trouve d'ailleurs à la fin du chapitre 13 du Léviathan, où les choses sont dites clairement. Vous voyez, il se trouve en bas, page 3. Ceci aussi est une conséquence de cette guerre de chacun contre chacun, que rien ne peut être injuste. Les notions du bon et du mauvais, du juste et de l'injuste, n'ont pas leur place ici. Là où n'existe aucune puissance commune, il n'y a pas de loi. Et là où il n'y a pas de loi, rien n'est injuste. Donc c'est simple, à l'état de nature, hein, dans ce que Hobbes appelle l'état de nature, rien n'est injuste puisqu'il n'y a aucune loi, aucune obligation qui s'impose. Et en conséquence, dans l'état de nature, si rien n'est injuste, aucune action ne peut être dite criminelle. Le meurtre n'est pas un crime. Le meurtre n'est pas un crime. Je peux tuer mon voisin si je le juge utile. Et, plus remarquable encore, si vous y réfléchissez bien, à l'état de nature, le commandement divin « tu ne tueras point » n'a pas de place. Et la religion elle-même n'impose pas d'obligation. Il n'y a pas de religion à l'état de nature. Donc je répète, je redis ce que dit ici Hobbes, là où n'existe aucune puissance commune, donc aucun État, il n'y a pas de loi, et là où il n'y a pas de loi, rien n'est injuste. Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus, il ne peut pas y avoir de justice sans un État, sans l'institution d'un État qui édicte des lois et qui dit ce qui est juste et ce qui est injuste. Et évidemment, cet État met en place un pouvoir judiciaire, c'est-à-dire des tribunaux, pour juger les hommes qui désobéissent aux lois civiles, et ils prononcent, évidemment, des sanctions à leur encontre, quand c'est le cas, en leur infligeant des châtiments. Alors, considérons à partir de là, et c'est la deuxième question que nous avions posée au début, comment juge-t-on? De quelle manière procède-t-on pour juger? Eh bien, considérons à partir de là, cette justice humaine qui ne peut exister qu'avec l'institution de l'État. L'État, pour le dire comme le sociologue Max Weber, l'État détenant désormais le monopole légitime de la violence. Seul l'État peut user de la violence. En vertu du pacte d'association qui s'appelle le contrat social, qui légitime son existence. Alors, si violation d'une loi civile il y a, donc j'ai dit, à ce moment-là, il y a crime. Il y a crime ou délit, crime, dès qu'il y a violation d'une loi civile. Mais, vous me direz, qui est compétent pour en juger? Qui est compétent pour prononcer une sanction et appliquer un châtiment au criminel? Le juge, oui, mais le juge, c'est un homme comme nous. C'est un fait. Alors, c'est vrai, c'est un homme comme les autres, mais ce qui fait son autorité lui vient de l'État. Son autorité, effectivement, il ne l'a pas par lui-même. Cette autorité, son autorité vient effectivement d'autorité publique de l'État. Et si c'est un homme... ce n'est pas un homme comme les autres, c'est un homme qui, par sa fonction, est élevé à la position supérieure d'un tiers, au-dessus des parties qui sont en conflit. Vous voyez, il est au-dessus par sa position de tiers. C'est-à-dire le tiers qui est au-dessus des parties, les parties, c'est l'accusé et le plaignant. Et cette position de tiers désintéressé est bien sûr la condition d'un jugement impartial. Et c'est ainsi que le juge ne jugera pas sommairement, hâtivement, mais il jugera au terme d'un procès organisé au sein d'un tribunal sous la forme d'un débat contradictoire entre les parties. Et au bout de ce procès, au terme de ce procès, il dit le droit. Il dit le droit, il prononce une sentence qui énonce la sanction à laquelle sera condamné l'accusé s'il est reconnu coupable. Et à partir du moment où il a arrêté sa sentence est un arrêt, eh bien le procès est clos. Alors évidemment, ça vous le savez, chacun le sait. Mais il est tout de même nécessaire de le rappeler pour bien montrer tout de même que le châtiment, normalement, c'est pas n'importe quelle violence. Le châtiment, ce n'est pas une vengeance irrationnelle, ce n'est pas une violence aveugle et arbitraire. Le châtiment ne trouve une légitimité qu'à l'issue d'une procédure publique et transparente qui obéit à des règles. Sinon, évidemment, si ce n'est pas le cas, on ne voit plus la différence entre la justice et la vengeance. La vengeance, la violence administrée par le châtiment, la souffrance infligée, ne se distingue plus de la violence du crime. Mais tout cela est assez facile à comprendre. Mais c'est à partir de maintenant seulement que le problème central va se poser. C'est la troisième question. Parce qu'après le temps du procès, vous avez celui de la sanction. Et que l'accusé soit jugé correctement, qu'il soit déclaré punissable au terme d'un procès équitable, c'est une bonne chose, bien sûr. Mais cela ne suffit pas à justifier pour autant le châtiment. Cela ne suffit pas à justifier le châtiment. Et je repose la question que je posais initialement, la troisième question. Comment, en effet, justifier qu'on fasse souffrir un homme parce qu'il a lui-même fait souffrir un autre homme? Comment justifier? Comment comprendre que la violence, puisque c'est une violence qui lui est infligée, va rendre justice? Comment le comprendre? Au nom de quel principe de justice peut-on justifier qu'on inflige une souffrance aux condamnés? Quel sens donner véritablement au châtiment? C'est ça le problème essentiel. Alors ici, il faut avouer que ce n'est pas un problème pour des hommes qui sont persuadés que le châtiment est un rite sacré qui va de soi et qui est destiné, par exemple, à purifier la société du mal qui l'habite. Hein. Bon, un homme qui, pour beaucoup d'hommes, le châtiment va de soi, on ne se pose même pas la question, il faut qu'il paye, c'est tout, point. Circuler. C'est un problème surtout pour nous, hommes modernes, qui vivons dans des sociétés dont les principes sont démocratiques. Nous qui sommes attachés au respect des droits fondamentaux de la personne humaine, pour nous c'est un problème. Pour nous c'est un problème. Et comme d'ailleurs, encore une fois, je rappelle ce que disait Michel Foucault, comme l'indique Michel Foucault au début de son ouvrage, nos sociétés supportent de moins en moins le spectacle de la souffrance. On ne veut pas la voir. Ça nous gêne. Il y a un malaise. Il y a un malaise dans le châtiment. Alors, on préfère, effectivement, nos sociétés préfèrent la reléguer, la dissimuler. Et si on regarde bien les choses, tout se passe comme si l'homme moderne que nous sommes devenus ne cessait de balancer entre deux scandales. Parce que d'un côté, nous nous scandalisons de l'impunité. L'impunité d'un crime nous apparaît comme un outrage à la victime, une négation de ses droits, une négation de la dignité de sa personne. Donc c'est scandaleux qu'un crime reste impuni, vous voyez, pour nous c'est évident. Et de ce point de vue, nous justifions la souffrance infligée aux criminels condamnés. Bah, il faut bien. Mais de l'autre côté, nous ne supportons pas la violence. Quelle qu'elle soit, nous compatissons au sort des condamnés. Nous dénonçons leurs bourreaux. Nous condamnons toute violence. Serait-elle légitime, dirigée vers celui qui a blessé, outragé ou tué? Nous ne supportons pas, lui, qu'il lui soit administré de la violence. Donc, vous voyez que nous ne cessons de balancer entre deux scandales, le scandale de l'impunité et puis le scandale du châtiment, qui est scandalé tout simplement parce qu'il est violent. Et nous sommes un peu dans une sorte de balancement permanent. Alors, est-ce qu'on peut sortir de ce piège infernal? À la question « Pourquoi infliger un châtiment à un criminel ?» Et j'assume le terme de châtiment, parce que même si on dit peine, il y a tout de même une souffrance. Pourquoi infliger un châtiment à un criminel? À cette question, est-ce qu'on peut trouver une réponse véritablement satisfaisante? Alors, avant de savoir s'il y a vraiment une réponse satisfaisante, eh bien, je vous propose d'examiner les réponses qui sont généralement données à cette question. Et nous allons voir que pour justifier la peine, il y a quatre types de réponses. On peut distinguer quatre types de réponses et je dirais même quatre systèmes de justification. Il y a quatre systèmes de justification. Pourquoi j'emploie le mot système ? Parce que au fond, à partir du moment où vous donnez un certain sens à la peine, eh bien, il en découle un certain nombre de pratiques cohérentes. Il en découle une certaine construction mentale et pratique. Et c'est pour ça que, au fond, ça fait système, comme on dit. Quand vous donnez un certain sens à la peine, eh bien, effectivement, vous avez un système de pratique qui se met en place. Et donc, quels sont les quatre systèmes de justification que je voudrais présenter? Alors, le premier, il y a une première manière de justifier le châtiment, ou la peine. Alors, vous voyez, là, je vais employer un peu indifféremment les deux termes. Il y a une première manière de justifier donc, le châtiment, celle qui consiste à rappeler la loi. Et c'est ce premier système de justification qu'on va aborder ce soir. Alors, cette justification est le propre d'un discours sacré ou moral. Il est suspendu à un interdit ou à une norme dont le crime est considéré comme une transgression. Alors, le criminel a transgressé une loi ou une norme. Et c'est comme ça que l'on caractérise son crime. Et la punition, le châtiment, consiste en quelque sorte à rétablir la loi, à rappeler la loi qui a été enfreinte. Alors, schématiquement, mais c'est une présentation pour l'instant, schématiquement, on peut dire qu'il y a deux versions de ce discours. Une version archaïque, d'ordre religieux, et puis une version moderne. Une version archaïque, on va l'étudier ce soir, c'est celle que vous trouvez par exemple dans la Grèce antique, et il y a beaucoup de choses à observer là, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Et puis une version moderne, où la loi transgressée ici n'est pas un interdit religieux, mais elle est considérée comme une norme qui est constitutive de l'humanité. Elle est considérée, cette norme, comme ce qui définit l'humanité ou ce qui permet à l'humanité de se constituer. Alors, à quoi je pense? Du côté de Freud, par exemple, du côté de la psychanalyse, l'interdit de l'inceste structure l'humanité. C'est une loi fondamentale qui est la condition de l'humanité. Et la violation de cette loi, effectivement, introduit des troubles considérables. Vous voyez, par exemple. Et puis, Sur le plan moral, je pense au grand philosophe moral Kant, pour lequel effectivement la loi, ici c'est la loi morale, c'est une loi qui émane de la raison, qui est présente en chaque homme, et qui est effectivement aussi, qui définit aussi son humanité. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant, c'est une présentation. Alors j'aborderai donc tout à l'heure, en premier lieu, la version archaïque de cette première justification de la peine. Et évidemment, ici, en tant que le criminel transgresse une loi sacrée, ben, c'est un traître à la loi. C'est un être maudit. C'est un être impur dont il faut s'écarter. Et vous verrez que son châtiment a une fonction expiatoire. Hein, la souffrance infligée sera le moyen pour lui de se purifier de la souillure de son crime. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va envisager la peine. Alors, deuxième manière de justifier le châtiment, eh bien, on dira cette fois que punir, c'est défendre la société. C'est-à-dire, là, c'est une toute autre conception. C'est une conception, si vous voulez, économico-politique. Par son crime, au fond, le criminel menace la société. Il menace la société et la peine, à ce moment-là, n'a plus rien d'une expiation. Il ne s'agit pas ici d'expier une faute. Hein. Non, la peine a essentiellement pour fonction de neutraliser, au fond, le criminel et de dissuader les candidats au crime. Donc la peine a surtout une fonction dissuasive. Elle vise une utilité sociale. Alors vous avez dans l'œuvre de Platon un sophiste, qui s'appelle Protagoras, qui développe cette justification dans le dialogue éponyme de Platon. Et c'est remarquable, hein, il critique d'ailleurs la première conception, la conception expiatoire de la peine. Hein, et au contraire, il met en avant l'idée que la peine a essentiellement une fonction dissuasive, elle est utile à la société. Bon. Et puis vous avez aussi, bien sûr, il faut le citer déjà, c'est un nom incontournable, Cesare Beccaria, le fameux traité des délits et des peines, qui paraît en 1764. 1764, et je vous dis, ça c'est une référence majeure. Alors Beccaria est, pour simplifier les choses, un lecteur de Montesquieu et de Rousseau. Bon, et puis, troisième manière de justifier la peine, eh bien, la peine permet de guérir le coupable. C'est-à-dire qu'au fond, le personnage principal ici, c'est le criminel. Il faut le guérir. Il faut le guérir de l'injustice qui affecte son âme. Et l'injustice est comparée à une maladie. Elle est comparée à une maladie et donc, au fond, que vise la peine à régénérer le criminel, à lui permettre de se réhabiliter. Et vous avez, évidemment, ce développement dans un grand texte de Platon qui s'appelle le Gorgias, où il fait une analogie entre, je dirais, la peine et puis les médicaments qu'on administre à un malade pour le faire guérir. Ils ne sont pas toujours très agréables, mais c'est pour la santé. Ben, c'est pareil. La peine, c'est pas agréable, hein, ça fait mal, mais c'est pour la santé de l'âme. Vous voyez ? Quatrième justification, dernière justification, punir, c'est réparer la victime. Et ici, c'est la victime qui devient le centre, hein, de la question. Et vous trouvez ce type de justification dans l'œuvre du philosophe Aristote. Dans deux œuvres particulièrement, la rhétorique et l'éthique à Nicomaque. Et Aristote parle de juste vengeance. Il ne condamne pas la vengeance. Et les Grecs, d'ailleurs, antiens, ne condamnaient pas la vengeance. Parce qu'ils n'entendaient pas non plus la vengeance de la même façon dont nous nous la représentons. Nous nous représentons la vengeance comme une attitude passionnelle, excessive, irrationnelle. Pas du tout comme ça qu'elle est vécue. Et d'ailleurs, tous les ethnologues, tous les anthropologues qui se sont intéressés aux sociétés dites primitives ont montré qu'il y avait dans ces sociétés ce qu'ils appellent des systèmes vindicatoires, où il y avait une sorte de vengeance réglée, une sorte de code d'honneur, en quelque sorte, qui n'autorisait pas n'importe quelle violence. Eh bien, Aristote s'inscrit dans cette réflexion. Et il faudra comprendre pourquoi nous avons rompu avec cette conception et pourquoi nous nous sommes fait l'idée d'une vengeance purement irrationnelle, excessive. Vous voyez, c'est quelque chose de nouveau, ça. Ce n'est pas fait par hasard, ce changement. Et de ce point de vue, il sera très intéressant de confronter l'analyse du stoïcien Sénèque, plus tardif, hein. Sénèque, vous connaissez le nom, qui lui, effectivement, défend l'idée moderne que nous avons de la vengeance et l'oppose, effectivement, à Aristote. C'est-à-dire qu'il y a deux, là, on a deux lectures, deux conceptions de la vengeance, effectivement, qui sont radicalement opposées, et c'est très intéressant de les confronter. Alors, le livre de Sénèque, effectivement, il faut lire à ce sujet, c'est le De Ira de la colère. Et puis, j'ajoute, évidemment, que la lecture de l'Orestie d'Eschyle est fondamentale. Alors, pour conclure cette première séance, vous voyez, ce ne serait pas trop long, je voudrais donc examiner le premier type de justification de la peine que je vous ai présenté. Et, comme je l'ai dit, je n'en étudierai ce soir que la version que j'appellerai archaïque. Alors, est-ce que cette version a totalement disparu? Est-ce que cette conception a complètement disparu? Est-ce qu'elle est absente de nos sociétés? Et comme nous le verrons, ce n'est pas si sûr. Et nous allons voir. Alors donc, nous allons voir maintenant que ce système de justification conduit à conférer au châtiment une fonction expiatoire. Le châtiment, dans ce cadre-là, a une fonction essentiellement expiatoire. Alors, pour cet examen, je m'appuierai sur les conclusions de deux grands historiens anthropologues de la Grèce archaïque. C'est-à-dire, la Grèce archaïque, c'est celle qui précède la naissance de la cité à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein ? C'est tout ce qui précède. C'est la période d'Homère, si vous voulez. Hein ? Et c'est aussi celle d'Eschyle. Plus tard. Eh bien, vous avez deux théoriciens, deux historiens anthropologues qui ont produit des œuvres ici très intéressantes. Ils ne sont pas connus, mais il faut les citer. Un certain Glotz, G-L-O-T-Z, qui fait paraître en 1905 une étude qui s'appelle « La solidarité de la famille dans le droit criminel grec ». La solidarité de la famille dans le droit criminel grec. Et puis, le deuxième théoricien, c'est Gernet, G-E-R-N-E-T, qui fait paraître en 1917 des recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce. Ce sont des études qui font autorité. Alors, je vais forcément schématiser et simplifier le propos. Donc, la Grèce archaïque, celle qui précède l'existence de la cité antique, hein, qui a une dimension politique. La Grèce archaïque se caractérise par la coexistence de grandes familles. On dirait des clans, si vous voulez. Et ces grandes familles ont chacune leur divinité tutélaire et leur culte. Elles ont chacune leur dieu, si vous voulez. Et elles coexistent sans qu'il y ait au-dessus d'elles une autorité politique centrale pour administrer la justice, pour régler, donc de manière centralisée, les rapports entre les familles. Ça n'existe pas. Et c'est avec la naissance de la cité, donc on peut dire à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, que cette autorité politique va apparaître. Vous aurez, avec la naissance de la cité, une centralisation de l'autorité politique qui va régir toute la société, toutes les familles. Et dans cette société grecque archaïque, eh bien, on a affaire à une justice familiale qui s'exprime selon deux modalités. Et au fond, si vous voulez, il y a deux sortes de justice. Il y a d'abord une justice qui consiste à régler les rapports entre les familles, une justice interfamiliale. Et cette justice s'attache à punir les forfaits perpétrés par une famille contre une autre. Elle s'occupe de régler les différends entre les familles, punir ceux qui s'attaquent à une autre famille. Et ici, le châtiment relève d'un système vindicatoire. Là, vous avez une vengeance, mais une vengeance pas au sens où nous l'entendons, une vengeance codifiée. C'est une vengeance qui a des procédures, des règles. Bon. Deuxième modalité de justice, vous avez une justice intrafamiliale. La première était interfamiliale, celle-ci, elle est intrafamiliale. C'est-à-dire qu'elle s'attache ici à poursuivre les actes criminels commis à l'intérieur d'une même famille par un de ses membres. C'est pas pareil. Et ici, le châtiment ne relève pas d'un système vindicatoire. Le châtiment relève d'un système expiatoire. Alors, il faut bien comprendre ce point. Alors, les Grecs ont deux termes différents pour désigner chacune de ces justices. La première, c'est la dikè, D-I-K-E, accent aigu, si vous voulez. Et la deuxième, c'est la thémis, T-H-E-M-I-S. Bon, dikè et thémis. Alors, loin de faire disparaître ces deux formes de justice, la naissance de la cité, la cité c'est comme organisation politique unifiée, eh bien la naissance de la cité va conduire au contraire à les intégrer et à les conjuguer. Il n'y a pas de rupture, il y a une sorte de continuité par intégration. Et cela explique que dans le droit pénal de la cité grecque, telle qu'elle existe par exemple à Athènes, eh bien les crimes des citoyens sont considérés soit comme des outrages comparables à la transgression d'un interdit familial, soit comme des offenses comparables à une exaction perpétrée par un membre d'une famille contre une autre famille, évidemment, qui exige réparation. Donc vous voyez, le crime est tantôt appréhendé comme un outrage, tantôt appréhendé comme une offense. Vous voyez, c'est pas pareil. Bon. Mais il y a une différence avec la justice familiale antérieure, c'est que désormais, ce n'est plus le chef de famille qui juge, qui met en œuvre la vengeance pour punir l'offense, ou qui punit l'un de ses membres pour outrage. Non, c'est le peuple. Désormais, c'est le peuple. C'est le peuple en assemblée qui juge. Le peuple, le démos. Et le peuple, au fond, il constitue une sorte de famille élargie à la dimension de la cité. En fait, c'est une grande famille, une plus vaste famille, le peuple. C'est ça, en fait, pour les Grecs, le peuple. Et évidemment, le peuple ne juge pas directement, il juge à travers ses magistrats qui le représentent. Et ce sont les magistrats, bien sûr, qui prononcent les sanctions. Alors, toutefois, si, comme je vous l'ai dit, la cité conjugue deux modes de justice, les deux modes de justice qui caractérisaient la justice familiale antérieure, elle privilégie la justice comme thémis, c'est-à-dire la justice dans son fonctionnement intrafamilial. La justice qui conduit à envisager le châtiment comme l'expiation d'un crime. Vous voyez, c'est la fonction expiatoire qui va dominer. C'est la fonction expiatoire de la punition, du châtiment qui va prévaloir. Donc le crime d'un citoyen est avant tout considéré comme la transgression d'un interdit, la transgression d'une loi qui constitue la cité et qui constitue non seulement son existence mais son identité. Alors le crime est ici beaucoup plus un outrage qu'une offense. Et le criminel, donc, c'est cet individu qui a transgressé la loi de la cité. Alors, à partir de là, la question est de savoir comment on punit ce criminel pour rétablir la loi, pour rappeler la loi, pour restaurer la loi. Comment on punit ? Eh bien, l'historien anthropologue Glotz montre qu'il y a ici deux types de châtiments. Deux types de châtiments. Vous avez un premier type, le criminel est banni de la cité. Il est exclu de la cité. La cité exclut le criminel pour se purifier de la souillure de son crime. Parce que le crime est une souillure. Il faut que la cité se purifie. Vous voyez ? Sinon, elle risque de disparaître. Sinon, elle risque de périr. Elle risque d'être contaminée. Alors ça, c'est le premier type de punition. Deuxième type de punition, soit le criminel se purifie lui-même de la souillure de son crime, il se purifie lui-même par des sacrifices, par des souffrances qu'il doit traverser. Et grâce à ces sacrifices, grâce à cette purification, il pourra réintégrer la cité. Vous voyez ? Deux types de punitions. Alors, le bannissement, si je reviens sur le bannissement. Le bannissement, c'est une mort civile. C'est une véritable mort civile. Celui qui est banni, il est exclu de tout. Il se retrouve sans maison ni bien. Il est condamné à l'existence d'une bête sauvage. Il est condamné à errer comme un misérable. Et quand on le rencontre, on lui jette des pierres. Sa vie est un enfer. Et quand il meurt, eh bien, il n'a droit à aucune sépulture. Et c'est justement ce à quoi est condamné Antigone, dans la fameuse pièce de Sophocle, est condamné à mourir sans sépulture. Et c'est... Alors nous, pour nous, ça représente pas grand-chose, on ne voit pas trop bien, mais pour un grec, c'est l'horreur. Et pourquoi cette exclusion ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la cité de se régénérer, de recouvrer sa pureté initiale en rejetant publiquement, par des cérémonies publiques, celui de ses membres qui, par son crime, est un être impur, un être maudit, qui risque de contaminer toute la société. Et cette exclusion, vous voyez bien que cette exclusion a le sens d'une purification. Et puis, la deuxième modalité punitive, qui concerne l'individu, qui va devoir suivre des sacrifices, eh bien, donc, elle oblige le criminel à se soumettre lui-même à des rites de purification, donc à des sacrifices. Et vous verrez, quand nous lirons l'Orestie, donc d'Eschyle, dans la troisième pièce, les Euménides, au début des Euménides, vous verrez que dans cette pièce, eh bien, le dieu Apollon dont le temple se trouve à Delphes, exige d'Oreste, le héros principal de la pièce, il exige d'Oreste de sacrifier un animal, un jeune porc, pour se laver avec son sang et se purifier de cette façon. Alors, il faut ici rappeler le crime d'Oreste. Le crime d'Oreste, c'est d'avoir tué sa mère Clytemnestre pour venger son père Agamemnon. Ah, c'est tout un problème, qu'elle avait assassiné. Vous savez, c'est le problème de la loi de vengeance, c'est qu'il faut venger le sang par le sang. Alors, ça ne s'arrête jamais. Et bon, Oreste n'avait pas envie, mais bon, il se sentait obligé, tout de même, c'était son devoir, de tuer sa mère pour venger son père. Comment ?
Et son amant.
Et son amant avec, mais enfin, lui... Enfin, alors le pauvre Oreste, il est vraiment bien embarrassé, quoi. Donc il va voir Apollon. Bon, enfin, je ne raconte pas encore. Donc vous voyez que le crime est une souillure. Le crime est une souillure. Et les Grecs ont un terme pour désigner ici cette souillure, c'est le terme de miasma. Miasma qui veut dire qui a donné les miasmes. Et ici, attention, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui compte dans le crime, dans la faute, c'est la matérialité du crime, c'est pas l'intention. C'est pas l'intention, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui est le plus important pour les Grecs, c'est l'impureté, la souillure du crime. C'est pas l'intention du criminel. C'est pas du tout l'intention du criminel, elle n'est pas prise en compte. Il ne raisonne pas comme nous, vous voyez, de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, le crime, quand il est commis par un membre de la famille, il affecte aussitôt les descendants. Enfin, les descendants sont aussi coupables que celui qui a tué. Vous voyez ? Par proximité. Donc la souillure, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut entraîner la ruine de la cité. Et c'est ainsi, je vais ici faire référence à une autre pièce très célèbre, c'est ainsi qu'au début de la tragédie de Sophocle et d'Hyproie, eh bien la peste sévit dans la cité de Thèbes. Et elle sévira tant que le crime d'Œdipe ne sera pas expié. Tant qu'Œdipe ne reconnaîtra pas son crime, qui est d'avoir tué son père et épousé sa mère. Alors, vous me direz, oh, ben, tout le monde l'a pas fait exprès. Il savait pas. Il n'a pas agi intentionnellement. Il ignorait que Laïos était son père. Mais c'est pas ça l'essentiel. Pour nous, c'est important du point de vue des Grecs. C'est pas ça la question. Le plus grave, c'est qu'il ait commis le crime. C'est qu'il ait commis son parricide. Et le plus grave, c'est que par ce crime, eh bien, il a transgressé la loi de la cité, qu'il l'ait voulu ou non. Qu'il l'ait voulu ou non. Alors évidemment, Freud, lui, va retenir le fait que c'est une intention qui n'est pas consciente. Mais ça, c'est des problèmes de moderne, ça. C'est pas le problème que se posent les Grecs. Et donc, ce qui seul peut désormais sauver la cité, c'est la souffrance expiatoire d'Œdipe. Et donc, au terme de la tragédie, vous allez voir, évidemment, vous le savez, que c'est d'un même geste que Œdipe reconnaît la loi qu'il a transgressée. Au début, il ne voulait rien entendre, hein, malgré ce que disait Tirésias. Hein, bon, il va reconnaître la loi qu'il a transgressée, et quand il va reconnaître la loi qu'il a transgressée, il va se crever les yeux pour se punir. Sacrifice expiatoire. Vous voyez ? Et grâce à tout ça, eh bien, la cité va pouvoir retrouver la paix et la prospérité. Vous voyez, au fond, en Grèce, les chefs d'État, eh bien, ils se sacrifiaient à un moment donné, ils s'arrachaient les yeux pour pouvoir restaurer la paix dans la cité. C'est comme ça que les choses s'arrangeaient. Bon, alors si je résume donc, il y a deux solutions pour se purifier de la souillure du crime. Soit donc la cité se purifie elle-même en bannissant le coupable, mais alors à ce moment-là, le coupable il est exclu définitivement, il est mort civilement. Soit elle permet au criminel de se purifier, de se racheter, et il peut à ce moment-là réintégrer la cité. Mais attention, c'est à la condition qu'il traverse de grandes souffrances par lesquelles il se purifie de son mal. Alors, je terminerai par cette question. Est-ce que nous sommes loin, dans nos sociétés modernes, de cette mentalité ? Alors, évidemment, première vue, on se dit, bon non, franchement, ça nous est complètement étranger. Cette conception du châtiment nous est vraiment radicalement étrangère. Peut-être pas si sûr. C'est peut-être pas si sûr si je m'appuie encore sur ce que j'ai lu de Michel Foucault au début de son livre, dans son premier chapitre. Parce que comme le suggère son texte, celui que nous avons lu tout à l'heure, notre pratique pénale est encore prisonnière de l'ambiguïté qui caractérisait la justice pénale des cités grecques archaïques, des cités grecques antiques. Regardez bien. Comme dans la Grèce ancienne, nos sociétés organisent des cérémonies publiques, alors ce sont des procès, pour marquer l'infamie d'un coupable en prononçant sa mort sociale, puisqu'il est exclu et jeté en prison. Ah, comme le bannissement dans les sociétés grecques antiques. Mais en même temps, nos sociétés ont honte de la souffrance qu'elles imposent aux condamnés. Elles se tiennent à distance de cette souffrance. Elles ne veulent pas la voir, c'est ce que nous avons dit. Et ce qui est très intéressant, c'est que nos sociétés conçoivent de manière idéale la punition du criminel comme le moyen pour lui de se racheter de son crime. Et ainsi, de pouvoir réintégrer la société comme s'il s'était purifié. C'est quelque chose qui est un petit parallèle qu'on peut faire. Hein, bon, je ne dis pas que c'est la même chose, mais est-ce que d'une certaine façon, nous sommes si éloignés que ça de cette mentalité archaïque? Alors, si j'avais le temps, mais là je vais arrêter parce que c'est trop long, mais je peux annoncer ce que j'avais l'intention de faire. J'aurais voulu vous parler de la mutation de cette conception expiatoire du châtiment dans les sociétés chrétiennes à partir du moment où le christianisme va naître. Mais bon, je ne le ferai pas. Simplement, j'aurais dit, si je développais, qu'avec le christianisme, la punition va se distribuer selon deux registres séparés. Celui du corps et puis celui de l'âme. D'un côté, vous aurez les châtiments publics qui sont du ressort de l'État, qui frappent le corps du condamné criminel parce qu'il a désobéi à la loi civile. Donc d'un côté, vous avez les châtiments publics et puis de l'autre côté, vous avez la pénitence. La pénitence qui a une fonction expiatoire. La pénitence qui consiste à se racheter de ses péchés et à viser le salut de l'âme. Le salut de l'âme n'est pas de la compétence de l'État. Hein ? L'État n'est pas là pour ça. Elle est de la compétence de la religion. C'est le confesseur qui va me dire ce qu'il faut que je fasse pour faire pénitence. Ça passera par quelques petites mortifications dans certains cas, hein, où je ferai un peu souffrir le corps. Bon. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Il y a une séparation des domaines. Mais ce qui est très intéressant, que d'une certaine façon, il y a une continuité, mais une redistribution en quelque sorte en même temps. Hein, la fonction expiatoire, chez les Grecs, il n'y a pas de différence entre l'homme et le citoyen. Il n'y a pas de séparation entre l'État et la religion. Quand vous rendez un culte au Dieu, vous rendez un culte à votre propre cité. C'est la même chose. La religion, c'est une affaire civique. Il n'y a pas de séparation. C'est avec le christianisme qu'on distingue le royaume de Dieu et le royaume de César. Et à ce moment-là, évidemment, ça transforme complètement l'idée qu'on se fait du châtiment. J'arrête là ce soir et je vous dis donc... la prochaine fois, nous lirons l'Orestie de d'Eschyle. Et je suis à vos questions. Voilà. Alors, allez-y, hein. Il y a des choses mal comprises, peu comprises, je ne sais pas. Enfin, allez-y.
Il me semble que l'expression « souffrance légitime » c'est un oxymore, c'est-à-dire c'est contradictoire dans les termes, mais un oxymore, ça peut marcher en poésie. Par exemple, si je dis le soleil noir de la mélancolie, ça veut dire quelque chose. Mais dans le domaine de la raison, qui est celui de la philosophie, je dirais c'est...
Du droit.
Du droit, c'est vrai qu'on a forcément un problème. En quelque sorte, on tente de résoudre un problème qui serait presque insoluble.
Alors... Souffrance légitime, ça peut s'entendre dans le premier sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a eu une procédure, il y a eu un procès, l'affaire a été jugée équitablement, vous avez été déclaré criminel, vous avez commis un crime, donc vous êtes reconnu comme criminel au terme de ce procès, le juge rend la justice, Et à ce moment-là, vous êtes punissable, donc vous allez être sanctionné. Donc ça, c'est dans ce premier sens-là, le mot C'est la punition qui est légitime. Hein. Mais alors, par contre, quand il s'agit d'infliger vraiment la souffrance, je veux dire, en quoi une souffrance va-t-elle vraiment permettre de rendre justice? C'est là, je suis d'accord avec vous. Là, ça devient plus compliqué. Ou j'ai pas été clair dans ma réponse. Oui. Ben, c'est ce qui est légitime, c'est le fait que vous soyez reconnu coupable au terme d'un jugement et qu'on dise qu'effectivement, ben, vous, en fonction de la gravité de votre crime, vous devriez être sanctionné. Bon, ça, il n'y a pas de. Pas discutable, si vous voulez. Hein. Par contre, c'est quand on passe à la matérialité de la punition, quand on réfléchit sur la souffrance, c'est vrai que là, on ne se voit pas en quoi une souffrance peut être un moyen de rendre justice, de faire, là, comment affliger une souffrance. C'est vraiment...
Attends, c'est parce que la justice, elle est entre deux chaises. C'est-à-dire, voilà. Si on dit tu ne tueras point et qu'on reconnaît en même temps c'est la peine de mort... On a un problème logique.
Un problème logique, oui, tout à fait. Non, mais il y a une incohérence.
On tente de surmonter une impuissance devant un danger réel qui serait un désordre généralisé.
Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que la peine de mort va être considérée par un certain nombre de penseurs comme Beccaria ou Albert Camus, hein, au XXe siècle, par exemple, comme une peine... non seulement injuste, mais totalement inefficace, au regard de sa prétention. Hein? Les deux. Hein? Et mais seulement les théoriciens comme Beccaria, si vous voulez, se préoccupent beaucoup plus de la question de l'efficacité des peines. C'est-à-dire qu'ils déplacent le problème du châtiment, le problème de l'expiation de la faute par la souffrance, effectivement, c'est une question qui est de plus en plus abandonnée.
Oui, là, c'est une appréhension plus moderne.
Plus moderne, oui. Ouais. Ce qu'on essaie, c'est d'obtenir une société qui soit la plus sûre possible, la plus... Hein, voilà, c'est... Oui. Voilà, c'est ça, c'est une question économique, en quelque sorte. Hein. Oui, souffrance légitime, c'est vrai, c'est une expression. Il est juste que tu payes. Il est juste que tu souffres.
Ça va te montrer ce que c'est que de souffrir. J'ai entendu ça des commerces.
Hein, oui, bien sûr. Comme par exemple, pendant longtemps, on trouvait anormal qu'une femme ne souffre pas... quand elle attendait un enfant, quand elle accouchait. Oui. La souffrance a une vertu rédemptrice. Hein.
Parce qu'on a de plus en plus de mal à comprendre.
Voilà. Et on est devenu assez étranger à ce genre de façon de voir les choses. Et c'est vrai que nous sommes beaucoup moins durs à la souffrance, nous sommes beaucoup plus fragiles, disons, par rapport à la souffrance que bien d'autres sociétés qui y sont habituées aussi. Oui.
Est-ce que la notion de châtiment ne retrouve pas un peu de l'actualité, alors dans un domaine un peu à part de la société, mais qui est l'actualité de la police?
Oui.
Quand pour un acte, pas forcément même criminel, on a une sanction qui peut être autorisée, puisque c'est celle de la police, mais qui est immédiate et qui arrive à... qui peut être jugé comme un accident. Enfin, bon, il y a une sanction immédiate qui est le fait d'abattre le fautif.
À quoi pensez-vous concrètement?
Une sorte quand même de recrudescence de cette notion qui, pour moi, se rattache à un châtiment immédiat.
Oui, oui.
Et qui est, pour la société, qui ne pose pas tant de problèmes que ça. Parce qu'il y a... Alors, vous nous avez expliqué qu'il y avait dans la société la la justice, qui avait rétrocédé, sous-traité un petit peu quelque chose au pénitencier.
À la pénitentiaire et à la police.
Et à la police.
Et à la police, vous avez raison.
Et que là, bon. Alors, bon, on va expliquer ça par l'état. Et puis, mais néanmoins, on a quand même un peu le sentiment que la notion de. Si on qualifie ça de châtiment immédiat, parce que c'est quand même le châtiment, ça passe assez bien dans la société.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout de même, qu'on le veuille ou non, la présence d'un sentiment. On a l'impression que les délinquants sont impunis, hein, qu'ils ne sont pas assez sévèrement punis. C'est toujours la même idée. C'est-à-dire, ils ne sont pas assez sévèrement punis, c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent, ils font n'importe quoi, rien ne les arrête, les juges sont trop gentils, ils les relâchent aussitôt. Donc, effectivement, en plus, ces délinquants, ils vous narguent, ils se permettent même d'envoyer leur voiture contre vous, etc. Donc, oui, effectivement, à partir de là, peut se développer l'idée que...
Le châtiment immédiat est une bonne solution.
Tout à fait. Voilà. C'est une manière de... c'est se faire justice soi-même, hein, quelque part. Hein, c'est cette idée.
Non, mais ça sous-entend que les policiers tuent délibérément.
Ils ne font pas délibérément. Non, c'est la police qui tuerait, mais pas les policiers, si vous voulez, en ce sens-là. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'exécutent pas simplement la loi, ils ne sont pas au service de la loi, mais qu'ils, je dirais, deviennent eux-mêmes justiciers, et passent au-delà des limites de la loi, où ils ne sont pas simplement, ils sont peut-être pas assez cadrés, ou je ne sais quoi. Oui, c'est le risque d'une justice expéditive qui se pose. Et sans que pour autant il faille incriminer spécialement les individus, parce que dans les situations chaudes, c'est très difficile.
Oui, c'est juste un petit peu.
Voilà. Et nous ne nous cachons pas que nous avons tous des pulsions vengeresses, hein, et que dès que des gens ont agressé, dès qu'on est... Effectivement, on a envie que celui qui nous a agressé... Soit... Non, mais c'est vrai, c'est un fait. Hein. Bon, mais c'est un problème difficile, ça. C'est un problème bien difficile. Alors, ce qui est sûr, c'est que on est tous cette mentalité qui consiste à dire que la souffrance a une fonction expiatoire, elle est présente même. Elle est présente dans les mentalités. C'est vrai que qu'on le veuille ou non. Hein, c'est que je vais te faire souffrir et j'ai un certain plaisir à me représenter l'idée que tu vas souffrir. Quand j'ai moi-même souffert, j'ai quelqu'un m'en a fait baver. C'est vrai que j'ai une vraie jouissance à me dire si je le tenais. c'est clair. C'est pas niable. Ce sentiment-là, il est tout à fait normal qu'un individu qui a vu toute sa famille massacrée, ou je ne sais pas, et des pulsions de vengeance. Et à ce moment-là, soit conduit à envisager la souffrance d'un point de vue purement expiatoire. Hein. C'est comme si la souffrance avait une vocation, une fonction magique, c'est-à-dire qu'elle va, en quelque sorte faire disparaître le mal qui a été commis. Car en fait, on a envie que le mal qui a été commis, bon, il est irréversible, soit effacé par... la souffrance qu'on inflige à celui qui l'a fait. Hein, c'est en ce sens-là qu'on a une idée expiatoire. Hein. Oui, allez-y.
Oui, je pense que le bannissement, on le vit en ce moment, le bannissement. Oui. Des partis politiques qui veulent bannir les gens qui ont rompu les lois, la loi de la société, qui ne veut pas battre sa femme, que sais-je. Eh bien, aujourd'hui, c'est quand même bien ça qu'il s'agit. Ils ont rompu les lois et on va les exclure de ce parti politique ou de ce groupement, quelque chose, et ils vont subir un certain châtiment parce que ça va rester.
Alors, c'est un problème redoutable.
Ouais.
C'est un problème redoutable parce qu'effectivement, on s'érige en juge. On s'érige en juge. Et puis, on prétend On prétend juger une affaire qu'on ne connaît pas, ou à peine, oui, pas beaucoup.
Personne ne la juge, en fait.
Enfin, on juge. On juge et au nom d'une cause suprême. Et on demande, au fond, une sorte de cérémonie expiatoire, hein, celui qui est coupable, un peu comme pendant la révolution rouge là, de Mao Tse-tung, hein, celui qui était coupable, fallait qu'il ait montré sur un écriteau tous les péchés, tous les crimes qu'il avait commis, fallait qu'il s'exhibe, hein, de cette manière-là. Bon, effectivement, ça, c'est un peu le danger. Dès lors qu'il y a une confusion entre l'ordre moral, enfin, ce qui est de l'ordre de la morale et de la politique, on risque effectivement de tomber dans ce genre d'excès. C'est évident. C'est-à-dire que, bien sûr, on va se dire, oui, c'est vrai qu'un homme qui bat sa femme, c'est pas bien, il ne mérite pas de représenter ses concitoyens, etc. Mais enfin, est-ce qu'une gifle, puisqu'on parle de ça, hein, puisque est-ce qu'une gifle, c'est une gifle momentanée, ou est-ce que c'est le signe d'une attitude... d'une attitude qui est inévitablement machiste qui vise la domination des femmes, on va loin, là. Ça peut être, vous savez, une gifle, ça, malheureusement, ça arrive à beaucoup de gens de s'énerver, perdre leur contrôle, et c'est pas vrai seulement des hommes, c'est vrai aussi parfois des femmes. Donc, vous voyez, il se surajoute toute une interprétation, une conception derrière qui va, effectivement... au nom de laquelle on va juger. Voilà. Et à ce moment-là, on rentre dans une conception un peu expiatoire de la justice, parce qu'effectivement, on rentre d'autant plus facilement dans une conception expiatoire de la peine que, justement, on ne passe plus par des procédures codifiées, avec effectivement un débat contradictoire où celui qui est accusé peut s'expliquer, etc., etc. C'est sûr.
Oui, moi, je pourrais revenir sur le truc en partant de là. Je n'ai pas compris trop la différence entre l'offense et l'outrage. Tu voulais faire une différence,
oui.
Mais je n'ai pas compris.
L'offense, par exemple, dans la justice... La justice, chez les Grecs anciens, il y avait deux conceptions de la justice, une fondée sur un système vindicatoire, l'autre sur un système expiatoire. Alors, dans le premier cas, il y a, offense, dans le deuxième cas, il y a outrage. Alors, l'offense, c'est, je m'attaque à une autre famille que moi, je l'attaque, je m'en prends assez bien, ou je sais pas, moi, je suis accusé d'avoir séduit la sœur, ou je ne sais quoi, je suis accusé, à tort ou à raison, d'avoir agressé l'autre famille. Donc on entre dans une logique de vengeance, c'est-à-dire ici qu'on a affaire à des individus qui veulent venger leur honneur, hein, qui s'estiment offensés et qui vont exiger réparation. Hein. Bon, c'est une logique agonistique, si on peut dire. Hein. Bon, dans l'outrage, c'est à l'intérieur de la famille. C'est à l'intérieur de la famille. Tu as violé la loi de la famille. Enfin, par extension, la loi de la cité.
Les mêmes faits intrafamiliales ou interfamiliales, et on donne deux définitions.
Ah non, parce que dans la famille, on est membre de la famille, on fait partie du groupe, on appartient à la famille. Il y a un lien d'appartenance. Il y a un lien d'appartenance, et ce qui fonde l'appartenance, ce qui fait qu'on fait société, c'est une loi qui constitue cette société. Quand on la viole, effectivement, on menace à ce moment-là la famille dans son intégrité. Tandis que l'offense, c'est extérieur. De toute façon, ce sont deux formes, oui, de violence, si on peut dire, mais qui n'ont pas le même sens, n'ont pas perçu de la même façon. Hein ? Alors que dans le second cas, l'outrage, il y a transgression d'un interdit. J'ai transgressé un interdit sans forcément... je ne suis pas attaqué à quelqu'un d'autre. Hein, par exemple, j'ai refusé d'effectuer un certain nombre de rites. Je ne m'en suis pas pris à quelqu'un. eh bien, j'ai violé la loi sacrée. Hein? Donc, j'ai commis un outrage. C'est différent, hein, de ce point de vue-là. Et l'histoire des Atrides, ça se passe à l'intérieur de la famille. Hein. Interne. Enfin, c'est compliqué. Le reste, il faudra avoir ça de près. Question,
oui.
Oui.
On entend de plus en plus parler de violences morales, donc qui sont de plus en plus difficiles à définir, à peser, je dirais. Et donc la justice est de plus en plus embarrassée, je dirais.
Harcèlement moral.
Oui, par exemple, c'est...
Oui, ça peut matériellement tout de même s'établir. On peut, par exemple, je ne sais pas, si tous les jours vous recevez des messages, des SMS insistants, agressifs, etc., c'est une forme de ce qu'on appelle le harcèlement moral. Et ça vient souvent de celui qui est en position d'autorité sur ses subordonnés. Parce qu'il est en position de pouvoir, alors il abuse. Il abuse de sa position de pouvoir pour imposer effectivement une pression considérable.
Et humilier.
Comment ?
Ça peut être adolescent aussi.
Oui, mais enfin, quand c'est harcèlement moral, de toute façon, c'est constitué. On ne peut pas accuser quelqu'un comme ça de harcèlement moral sans avancer un certain nombre de pièces. Tout de même. Bah, sinon, tout est facile. Mais là où vous avez raison de poser un problème, enfin, le problème qui se pose, c'est violence morale. Bon, si c'est harcèlement moral, ça peut se constituer. Tout de même, il y a des pièces pour le vérifier. Mais quand on dit de quelqu'un qu'il a exercé une violence morale par ses paroles, on risque parfois d'aller au-delà de ce qui a été réellement dit pour faire des procès d'intention. Voilà. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en matière de droit, on ne juge que des actions, on ne parle pas des intentions.
Mais voilà.
Et heureusement,
semble-t-il,
ben oui.
On a tendance à juger des intentions.
Oui.
Et devant un tribunal fictif de réseaux sociaux
c'est sûr que c'est la moralisation des conflits qui les rend violents. Enfin, je veux dire, c'est effectivement en justice, en droit pénal, en principe, c'est plus compliqué, mais enfin, tout de même, on peut le dire. On s'en tient aux actions qui ont été effectivement commises. Alors, c'est toujours un peu plus compliqué, on est d'accord, mais par contre, on ne juge pas les intentions. Ce qui compte, c'est pas que le motif, enfin, l'intention qui fait que vous avez mal agi, elle est difficile à cerner. Difficile à cerner. Et même celui qui a agi ne sait pas toujours bien pourquoi. déjà. Donc, voilà, c'est très dangereux, c'est un terrain glissant, hein, que de effectivement prétendre juger un homme sur ses intentions. Ou alors on se prend pour Dieu. Hein, on sonde les reins et les cœurs. Hein, non, mais bon, c'est. Effectivement, ça, c'est un problème. Puis c'est sans fin, parce que tu me prêtes cette intention, et puis bon, on n'en arrive plus. Ça, c'est une question. Il y a plein de questions que vous vous posez auxquelles je n'ai pas très, très, très bien répondu, mais qui méritent d'être posées, effectivement. Qu'on aura l'occasion peut-être de revoir.
C'est énorme comme problème. C'est énorme.
Oui.
Oui. Extravagant.
Pour moi, je trouve que c'est une belle question.
Ah oui, mais tout à fait. Mais par exemple, on dit on ne parle pas des intentions. Bon, très bien. Et alors, comment on juge quelqu'un qui prend le volant avec 2 grammes, je ne sais pas combien, bon, et il a donné la mort.
Tout à fait. Homicide involontaire.
Oui, et on pourrait peut-être.
Mais il est responsable du fait, il est responsable matériellement du fait qu'il s'est mis à boire avant, sachant que c'est dangereux. De prendre le volant en buvant. Donc, ce n'est pas une pure intention. C'est, il y a tout de même une matérialité. Il y a tout de même, il a bu effectivement. Ça peut se vérifier.
Voilà. Donc, il est totalement engagé dans une
absolument,
absolument. Tout à fait. Alors, si on a, je donne cet exemple-là parce qu'il vient de venir à l'esprit, mais il y a des tas d'exemples où la justice est un problème absolument quasiment insoluble. Il faut être.
Oui, chaque décision doit s'adapter au cas particulier. C'est clair. Mais là, en ce qui concerne. La question, l'exemple que vous donnez de l'homme qui prend le volant en étant ivre, c'est pas trop difficile. Non. On peut en faire un alcotest. Hein. Et donc, s'il a dépassé tant de grammes d'alcool par 200, enfin, je ne sais plus comment on fait ça, eh bien, il est coupable, il est responsable. Alors, il n'a pas voulu tuer.
Moralement, mais la qualification judiciaire. Pour l'instant, elle ne le reconnaît pas comme étant quelqu'un qui a eu l'intention de...
Non, c'est un homicide involontaire.
C'est un homicide involontaire. Et pourtant...
Mais involontaire ne veut pas dire qu'il n'y est absolument pour rien. Il y a une responsabilité atténuée, mais il y a une responsabilité tout de même.
Avant, c'était une circonstance atténuante.
Oui, allez-y, oui. Quand il y avait crime passionnel, par exemple.
Non.
Pour celui qui prend le volant, pour le volant, ouais. Alcoolisé. Ah oh non, mais on est prévenu, hein. Boire ou conduire, il faut choisir. Voilà. Bon, est-ce que vous avez encore une question ou on peut considérer que la séance est close et je vous vois. Le jeudi 6 octobre.